Le journal de ce 7 novembre 2014 avec d'abord à Paris Mathieu Laurent.
Bonjour Marc et bonjour à tous. Nous tenterons de lire entre les lignes du plateau télé du chef de l'État hier soir, exercice de communication convenu censé restaurer un dialogue difficile avec les Français. François Hollande aurait la haute main sur tout, tout, y compris son destin, commentaire de Christine Moncla. Avec Bruce de Galzin, nous nous attarderons sur les rares annonces et promesses économiques de cette session. À la mémoire de Rémi Fraisse et contre les violences d'État, hier des lycéens ont bloqué une vingtaine d'établissements parisiens, paroles recueillies par Marie Viennou. Avec Antoine Marette, nous égrènerons la liste des griefs du CSA qui jalonne un rapport qui éperonne le mandat du PDG de France Télévisions, Rémi Pumelin. Nous refermerons le premier cahier de cette édition avec les précisions de Valérie Crova quant aux frappes de la coalition conduite par les États-Unis sur les effectifs d'Al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Second volet de ce journal, la suite en direct de l'Institut français de Berlin, de la matinale que la chaîne consacre au 25e anniversaire de la chute du mur. De sa vie privée à l'avenir du pays qu'il gouverne, drôle de grand écart que seul propose ses grands messes de la communication politique, une absente, cette fois, la gauche, une récurrence, la pédagogie, face à un quartet de Français censé incarner les problématiques lourdes du moment, les écueils économiques de la France, celles que François Hollande prétend, je cite, « réformer jusqu'au bout, lui qui a décidé de tout ce qui nous arrive et de facto, de tout ce qui peine à éclore ». Bonjour Christine Moncla.
Bonjour Mathieu.
Christine, François Hollande est-il encore maître de son destin politique ?
Alors si son destin est celui d'être un président social-démocrate, on peut dire qu'il l'est. Le cap des réformes maintenu en effet jusqu'au bout. La politique de Manuel Valls qui fait tant débat à gauche, c'est la sienne, celle qu'il a voulu pour le pays et que son Premier ministre applique à la lettre. Voilà Martine Aubry et les frondeurs fixés pour la suite du quinquennat. Et ce matin, ceux-ci ne manquent pas de regretter l'absence de tout mea culpa hier soir et n'en finissent plus de chercher le président socialiste de 2012. Mais c'est aussi que François Hollande hier soir parlait aux Français et pas seulement à la gauche qu'il a élue. Et il a tout fait pour dévier à chaque fois le curseur de sa personne vers le pays. À la sortie du plateau de télé, le chef de l'État était d'ailleurs content car, a-t-il dit, les quatre Français sélectionnés par TF1 avaient réussi à faire de leurs problèmes particuliers un sujet d'intérêt général. De même, mais dans un processus inverse, François Hollande essaie de parler de la France en positif, c'est la nouvelle mode politique du French celebrating, dans l'espoir de repositiver, si on peut dire, son cas particulier, de faire oublier cette fois le Hollande bashing. À ce stade et au lendemain de cet exercice pas très réussi, ça paraît mission impossible, mais s'il est une force chez le président qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est son solide optimisme. Il y croit, lui, encore à la réussite de ses réformes. L'animal politique croit surtout en l'expérience qui a montré à plusieurs reprises à quel point une élection n'était jamais jouée d'avance.
Merci Christine Moncla. François Hollande n'aura pas surchargé en tout cas cet exercice d'annonce dite concrète. Malgré tout, il a ciblé le chômage des seniors et la compétitivité des entreprises avec une promesse, Bruce de Galzin, plus de hausse d'impôts dans un proche avenir.
Il n'y aura pas d'impôt supplémentaire sur qui que ce soit à partir de l'année prochaine. Rien au-delà de ce qui a été annoncé, et ce jusqu'à la fin du quinquennat. François Hollande fait une promesse, même la classe moyenne supérieure ne peut plus accepter d'augmentation d'impôt, est-il dit. Pour les entreprises également, le président annonce que le CICE, qui est un crédit d'impôt, sera transformé en baisse de charges pure et simple à partir de 2017. Mais François Hollande veut aussi soutenir les chômeurs et surtout les seniors. Pour cela, il redonne vie à l'allocation équivalent retraite qui permet aux plus âgés de faire la jonction entre la fin du chômage et la retraite. Pour ceux qui n'ont pas encore toutes leurs annuités, le président propose de cumuler dès l'année prochaine l'allocation de solidarité spécifique que touchent les chômeurs en fin de droit et un nouveau contrat aidé afin qu'ils restent dans le monde du travail jusqu'à la retraite. Un contrat en entreprise ou dans une collectivité. En revanche, on ne sait pas combien de contrats seront créés et combien ils vont coûter.
D'autres promesses, cette fois à destination de la jeunesse, la création de 15 000 emplois d'avenir vert. Le chef de l'État s'est dit favorable à l'élargissement du service civique qui concerne aujourd'hui 35 000 jeunes. Et puis, l'Élysée promet des tablettes numériques dans les classes de 5e à l'horizon 2016. L'horizon paraît incertain, sinon grisâtre pour des lycéens qui se sont mobilisés hier dans une vingtaine d'établissements de la capitale à la mémoire du militant écologiste Rémi Fraisse. Sébastien, en terminale au lycée autogéré de Paris, s'est déjà rendu plusieurs fois à Notre-Dame-des-Landes ainsi que sur le site du chantier du barrage de Sivens dans le Tarn, là où Rémi Fraisse est mort le 26 octobre dernier après le tir d'une grenade par des gardes mobiles.
Je pense que Rémi Fraisse, c'est juste un alibi. Je sais que là, je me ferais taper dessus si beaucoup de mes potes entendaient ça, mais je pense que sa mort est un accident. Je pense que personne n'a voulu ça. Donc Rémi Fraisse, d'accord, c'est horrible, machin truc. Mais moi, c'est pas pour ça que je viens manifester. C'est vraiment contre toutes les violences d'État, physiques et psychologiques. Et en hommage à Rémi Fraisse et en soutien à toutes les ZAD. Moi, je crois plus en la politique institutionnelle, quels que soient les partis. Je pense qu'à la fois, il y a des moments où il faut agir contre, effectivement, comme sur les projets de ZAD. Je pense qu'il faut savoir utiliser la violence quand elle est nécessaire et envisager des réalités physiques et matérielles dans les luttes, et pas seulement intellectuelles, comme on aimerait nous faire croire que non, mais maintenant, tout est dans les idées, il faut parler, il faut être cordial. Non, à un moment, il y a des conflits qui ont des réalités matérielles et physiques. Il faut les envisager, il faut savoir utiliser la violence. Dans un deuxième temps, je pense qu'il faut savoir construire aussi, construire des alternatives, puisqu'on ne peut pas ne rien proposer. Et je trouve que les ZAD, c'est quelque chose qui est une construction, qui est une alternative, qui est un mode de vie plus simple, plus sobre, et moi, de mon ressenti, plus heureux et plus logique, en fait.
Des propos recueillis par Marie Viennot, une centaine de militants écologistes et anarchistes avaient monté un campement à Rouen, une ZAD, une zone à défendre, précisément pour engager le dialogue avec les populations sur les violences policières. Campement évacué la nuit dernière par les CRS à la demande de la mairie socialiste de la ville. Avis de gros temps entre le CSA et le PDG de France Télévisions. En cause, un rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui a fuité en début de semaine. Il met en cause et sévèrement le bilan de Rémi Pfimelin à la tête de France Télévisions depuis 2010. Antoine Marette.
Dans ce rapport, la liste des griefs contre Rémi Pfimelin est longue. Dans l'information tout d'abord, trop de rubriques sociétales, anecdotiques, pas assez d'international, de politique, d'économie et de social. Des programmes culturels aux horaires trop tardifs, un manque d'audace dans la fiction, des chaînes publiques qui se concurrencent au lieu d'être complémentaires, France 4 et France O qui ne justifient pas leur présence sur le réseau hertzien, et un management trop complexe. Voilà la liste non exhaustive des reproches du CSA. Officiellement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel affirme qu'il ne s'agit que d'un pré-rapport, un simple document de travail qui devait être examiné hier en séance plénière par les 9 sages. Mais face au tollé provoqué par cette fuite, et notamment l'indignation de Rémi Pfimelin qui parle d'ingérence, les sages ont décidé de reporter la discussion sans pour autant donner de date. Mais de date, il y en a une que tout le monde a en tête. C'est la fin du mandat de Rémi Pfimelin dans 6 mois. L'actuel PDG de France Télévisions, nommé par Nicolas Sarkozy, n'a pas encore dit s'il était candidat à sa propre succession. Si c'est le cas, il devra cette fois séduire non plus le président de la République, mais le CSA. Et cela semble plutôt mal parti.
Il est 8h et presque 9 minutes en Syrie. La coalition internationale conduite par les États-Unis a mené hier des raids contre des positions du front al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, près de la frontière turque. C'est la deuxième fois que la coalition internationale vise des positions d'al-Nosra depuis le début de sa campagne aérienne menée en Irak et en Syrie. Ces frappes interviennent, surtout après que les deux grands groupes de l'opposition dite modérée ont fui face à l'avancée des djihadistes. Valérie Krova.
Le Front révolutionnaire syrien et le mouvement Azem ont été contraints de quitter leur fief dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest syrien. Ils ont été délogés par les combattants d'Al-Nosra, la branche d'Al-Qaïda en Syrie, qui est à la recherche d'un nouvel ancrage territorial depuis son expulsion de la province de Deir ez-Zor cet été par l'État islamique. Mais surtout, Al-Nosra considère le Front révolutionnaire syrien et Azem comme des agents de l'Occident. De fait, ils sont financés par Washington et armés par les monarchies du Golfe, qui voient en eux une alternative aux djihadistes qui ont regagné du terrain. Et c'est justement pour stopper la progression des djihadistes que la coalition conduite par les Américains a mené des raids, non seulement contre Al-Nosra, mais aussi contre un autre groupe rebelle, Ahrar al-Sham. Ce groupe islamiste, qui comprendrait entre 10 000 et 20 000 combattants, avait déjà été visé par un attentat en septembre dernier, dans lequel une cinquantaine de ses chefs militaires et religieux a été décimé. Les combattants de l'armée syrienne libre se retrouvent quant à eux marginalisés, avec d'un côté les djihadistes, de l'autre l'armée loyaliste qui intensifie ses bombardements depuis la fin du mois d'octobre. Face à la dislocation de la rébellion, la coalition espère par ses frappes redonner à l'opposition modérée les moyens de se reconstituer aussi bien face aux islamistes qu'aux troupes de Bachar el-Assad.
La justice allemande estime que la grève dans les chemins de fer est légale. La Deutsche Bahn a fait appel à faire examiner dans la matinée. La grève massive porte sur la hausse des salaires et la réduction du temps de travail, mouvement amené à se poursuivre jusqu'à lundi et de nature à compliquer le déroulement des célébrations du 25e anniversaire de la chute du mur, le sujet même de cette matinale spéciale de France Culture. Il est 8h11, c'est à vous, Amélie Perrier, à l'Institut français de Berlin.
Et oui, Mathieu, France Culture ausculte les soubresauts de l'histoire ce matin. Il y a 25 ans, un quart de siècle, le mur de Berlin tombait dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989. L'édifice qui sépare la ville, mais aussi de manière symbolique, les deux blocs, l'Est et l'Ouest, le clivage idéologique de la guerre froide. Ce mur est abattu par une foule de Berlinois. Après d'immenses manifestations, les Allemands de l'Est obtiennent l'ouverture des checkpoints et sont accueillis à bras ouverts par un monde libre, au départ incrédule. C'est l'étape fondatrice de la réunification de la RDA à l'Est et de la RFA à l'Ouest. Alors aujourd'hui, nous avons voulu savoir si les différences entre ces deux Allemagnes persistaient. Jean-Marc Chardon, vous êtes l'envoyé spécial de France Culture et vous avez pris un exemple, un débat tout à fait d'actualité dans le pays aujourd'hui, l'instauration d'un SMIC, l'occasion de constater que les économies de l'Est et de l'Ouest ne sont pas encore équilibrées.
Oui, et ce SMIC, il s'agit d'une nouvelle pièce du débat qui agite l'Est et l'Ouest. Quels seront donc les effets d'un salaire minimum sur des économies au développement inégal entre l'Ouest et l'Est, encore une fois? L'absence de SMIC a longtemps été justifiée par la priorité donnée à la flexibilité. Ça aurait joué en faveur d'une baisse du chômage, mais au prix de la banalisation du temps partiel avec floraison de mini-jobs. La majorité des entrepreneurs a mis en garde contre un SMIC généralisé. Parmi eux, Daniel Haber, patron franco-allemand d'une entreprise du Mittelstand Haber Group, dont le siège est à Bliss-Castel, quand bien même lui ne pratique pas des salaires inférieurs au SMIC. Daniel Haber.
Personnellement, je ne suis pas favorable à l'implémentation de ce salaire minimum, parce qu'il y a quand même des disparités dans les régions en Allemagne, notamment celles limitrophes avec la Pologne ou avec la République tchèque. Le SMIC ne tient pas compte du coût de vie et ne tient pas compte des réalités, et je pense que nous serons forcés de constater en Allemagne dans quelques années que le SMIC va augmenter le taux de chômage, et le taux de chômage pas forcément parce que les gens n'auront plus de travail, mais parce que tout simplement ce travail sera fait au noir et ne sera plus comptabilisé dans le produit national.
Et il ne manque pas d'experts qui s'interrogent sur les effets en chaîne d'une mesure sociale portée par le SPD et les syndicats en Allemagne. Pour Benoît Lorrain, avocat franco-allemand, il sera difficile d'associer les régions de l'Est.
Si au 1er janvier 2015, il faut payer effectivement les heures à 8,50 €, alors que certains travailleurs pauvres sont payés 7 €, on a même des contrats où ils sont payés 5 € de l'heure. De deux choses l'une, soit il faudra que l'employeur négocie avec le salarié une diminution du nombre d'heures pour ne pas franchir le montant de 450 € de l'heure, ou alors il faudra transformer ces contrats en contrats de droit commun. Il faut voir que ces contrats concernent à peu près 7 millions de personnes, de gens qui ont besoin de ça pour vivre. Ce soit des étudiants, mais surtout beaucoup de retraités. Il n'est pas rare, quand vous allez faire vos courses en Allemagne, de tomber sur une caissière qui a 72 ou 75 ans, qui vient là pour compléter sa maigre retraite.
Débat finalisé, ne reste plus que quelques semaines avant l'introduction attendue du SMIC en Allemagne.
Jean-Marc Chardon, merci beaucoup. Voilà pour l'aspect économique. On le voit, le mur de Berlin, en réalité, deux murs parallèles en béton, hauts de 3,60 m. Cet édifice a bouleversé les mentalités, les populations, les économies et l'histoire en général. De ce mur, du chemin de ronde, des plus de 300 miradors, il ne reste pas grand-chose aujourd'hui. D'autant que Berlin se transforme à vitesse grand V depuis un quart de siècle. La question du devenir du mur, de la sauvegarde de ce patrimoine historique revient régulièrement à la une de l'actualité. C'est votre reportage, Cyril Sauvageau.
Quand les touristes arrivent à Berlin, la première question qu'ils posent est souvent la même: où peut-on voir le mur? Le premier réflexe, c'est de se rendre à Checkpoint Charlie, comme l'ont fait Zoé et ses amis toulousains.
C'est quand même intéressant de savoir où était vraiment le passage entre l'Est et l'Ouest. Et en plus, c'est un des points que l'on retrouve sur tous les films d'espionnage où il se passe toujours quelque chose.
Mais l'ancien poste frontière coincé entre un fast-food et des boutiques de souvenirs n'a plus grand intérêt. C'est une simple attraction touristique où l'on vient se faire prendre en photo. Si la plus grande partie du mur a été détruite après 89, un mémorial plus au nord, à Bernauer Straße, permet de comprendre la séparation. Ici, un pan entier du mur a été préservé tel quel, avec son mirador et son no man's land. Sur des bornes, on peut entendre les témoignages de familles ayant fui la RDA. Que faut-il garder de ce mur de la honte? Réponse de Paul, un touriste britannique. C'est pas évident parce que ce mur représente la souffrance et le mal que les hommes peuvent se faire les uns aux autres. Il faut regarder vers l'avenir. Je pense que quelques morceaux du mur suffisent. 25 ans plus tard, le débat est toujours d'actualité. Si la East Side Gallery, un ensemble de graffitis et de peintures murales, a été préservé pour l'essentiel, des Berlinois se battent en ce moment pour sauver une autre partie des vestiges menacés par un nouveau projet immobilier.
Voilà, votre reportage Cyril Sauvageau est terminant cette édition spéciale à Berlin avec un mot du magazine de la rédaction que l'on pourra entendre ce soir à 18h15 sur France Culture. Vous l'avez intitulé, Cyril, Allemagne, les nouveaux visages de l'Est.
Oui, l'idée c'était d'aller voir à quoi ressemblent ces nouveaux Länders, où en est le rattrapage Est-Ouest. Est-ce qu'un décalage existe encore? On sait que des sommes considérables ont été injectées de l'Ouest pour rénover l'ex-RDA depuis 25 ans. On parle de 1500 à 2000 milliards d'euros au titre du pacte de solidarité. Le taux de chômage en moyenne reste plus fort à l'Est aujourd'hui, les salaires en moyenne aussi sont plus bas. Mais qu'y a-t-il au-delà de ces chiffres? Comment illustrer cette nouvelle Allemagne? Voilà ce qu'on va essayer de montrer avec ce magazine.
Alors Cyril, vous avez sillonné l'Allemagne à la recherche d'exemples très variés.
Alors oui, on a essayé en tout cas de montrer plusieurs réalités très différentes. Nous sommes allés à Leipzig, qui est aujourd'hui une des villes peut-être les plus jeunes et les plus dynamiques d'Allemagne, ville rénovée, réinvestie par les artistes, par les créateurs d'entreprises. C'est plutôt un exemple de reconversion réussie, Leipzig, comme d'ailleurs le Land de la Saxe, donc au sud-est du pays. Et puis à l'inverse, dans le nord-est de l'Allemagne, là on est un peu plus encore à la traîne. Je me suis rendu à Prenzlau, dans la région rurale de l'Uckermark. La situation est beaucoup plus difficile là-bas. Une population vieillissante, beaucoup de jeunes qui ont quitté cette région pour aller vers l'ouest. Beaucoup d'usines ont fermé, mais on voit que là-bas, l'hémorragie de population a cessé ces dernières années. Il y a même des gens qui commencent à revenir s'y installer, et c'est un phénomène que les autorités locales cherchent à encourager. Dernière illustration, la mutation de l'agriculture de l'ancienne Allemagne de l'Est avec la transformation des anciennes fermes collectives dans la filière biologique.
Allemagne, les nouveaux visages de l'Est, c'est votre magazine de la rédaction Cyril Sauvageau. Merci beaucoup. Un magazine réalisé par Annie Brault. Ce sera présenté ce soir par Anne Lorchouin à 18h15 sur France Culture. Voilà, Marc, on va me dire un petit mot de météo.
Je vous en prie.
Puisqu'à Berlin, il fait quand même pas si froid. C'est à 11 degrés aujourd'hui du soleil.
C'est ça pour Francesca Fossati.
Exactement, qui est frigorifié quand même. Et en France, c'est pas beaucoup mieux. Voilà, pour notre tour tout à l'heure, avec des pluies qui se généralisent d'ouest en est et les températures. 13 degrés cet après-midi à Paris et à Strasbourg, 15 à Toulouse, la maximale 22 à Ajaccio.
Vous êtes sûr qu'il faut rentrer et du coup?
Je sais pas.
On est bien ici,
on est pas mal à Berlin.
On peut vous garder Cyril Sauvageau pour la deuxième partie de ces...
Lui, il reste de toute façon.
Moi, je reste.